Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ouais, pas trop. Merci Thomas et merci vraiment au groupe de louanges pour cette première partie du culte. Je sais pas vous, mais moi ça m'a déjà bien reboosté et j'espère que ça va continuer avec le temps du message. Comme l'a dit Thomas, le thème c'est le royaume ou l'évangile du royaume. Et c'est une thématique que j'avais à cœur depuis un moment de partager la prochaine fois que j'avais l'occasion de le faire. Mais il y a un moment, quelque chose que j'ai vécu qui m'a un peu confirmé que je voulais que c'était la thématique à aborder ce matin. Je voulais vous raconter cette petite anecdote. On était avec quelques jeunes de l'église, c'était à fin du mois d'août, et on s'est dit, ils se reconnaîtront, et on s'est dit qu'on allait se retrouver pour une petite soirée tranquillement, discussion, prière, clignotage. Et on a passé cette soirée ensemble, c'était un très bon moment. Et on en est arrivé à parler de cette question justement du ciel, du royaume de Dieu, et à se poser plein de questions sur comment ça va être. Alors il y avait des questions plus pertinentes que les autres. J'avais dit, est-ce qu'on pourra se téléporter? Enfin, pas mal de... un bon moment de discussion. Mais ce qui était intéressant, c'est que plus on parlait de ça, plus l'atmosphère a changé, et plus on était là un peu... recroquevillé, détendu sur notre chaise, le regard un peu vide à se dire, mais ça va être bien quand même. Voilà, on se disait, mais quand on va voir Dieu pour la première fois, quand on va être dans ce royaume, comme disait Thomas, de paix, de justice, où on sera loin un peu de toute l'actualité troublée actuellement, ou loin de toute souffrance, on était là, mais ça va être vraiment bien. Et on a fini la soirée à se regarder, mais waouh. Et on a pris un temps de prière vraiment juste pour remercier Dieu, en fait, pour cette espérance qu'il nous donne. Et mon souhait ce matin, ma prière, c'est qu'on puisse vivre un peu la même chose qu'on a vécu entre jeunes, là, en discutant, que le message ait un peu le même effet ce matin. Qu'on reparte tous en se disant, waouh, c'est donc ça le royaume, c'est ça qui nous attend, et que ça puisse nous motiver aussi à le partager autour de nous. Alors, comme l'a dit Thomas, la thématique du royaume, c'est quelque chose qui est un peu le fil rouge, finalement, dans la Bible, c'est quelque chose de central dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans la prédication de Jésus, on a le mot évangile qui signifie bonne nouvelle, et Jésus parlait souvent de la bonne nouvelle du royaume. Les deux thématiques, elles vont ensemble. Et le texte que j'ai choisi pour développer cette thématique ce matin, il se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, et je vous invite à le prendre avec moi. Ésaïe au chapitre 52. Et peut-être avant de le lire, je vais vous proposer de mettre un peu de contexte. Voilà, c'est important quand on lit un texte de savoir qui parle, à qui, à quel moment, pourquoi il parle de telle ou telle chose. Et dans le contexte, Ésaïe s'adresse à un peuple, c'est le peuple du royaume de Juda. Et le royaume de Juda, donc c'est un royaume dans l'actuel Moyen-Orient. Et ce royaume vient de vivre un désastre, une catastrophe. Il vient d'être conquis par un empire, c'est l'empire babylonien, qu'on appelle aussi l'empire des Chaldéens. Et le pays est complètement dévasté. Le pays est détruit, la capitale, Jérusalem, est en ruine, et une grande partie du peuple a été déportée à Babylone. Donc ils sont loin de chez eux, loin de la terre que Dieu leur avait donnée. Et c'est là qu'Ésaïe va apporter plusieurs prophéties, plusieurs messages d'espoir, et entre autres, celui qui se trouve au chapitre 52. Je vous propose de le lire. Réveille-toi, réveille-toi, Sion, pars-toi de ta force. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ô ville sainte. Car désormais, ni l'incirconcis ni l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue donc ta poussière, relève-toi, Jérusalem, installe-toi. Délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou, toi qui es prisonnière, ô fille de Sion. Car voici ce que l'Éternel déclare. Puisqu'on vous a vendu pour rien, ce sera sans argent qu'on vous libérera. Car voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Mon peuple est descendu tout d'abord en Égypte afin d'y séjourner. Ensuite, l'Assyrien l'a opprimé sans cause. Mais à présent, ici, qu'est-ce que j'ai à faire, demande l'Éternel. Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent, déclare l'Éternel, et à longueur de jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ce jour que c'est moi qui ai dit « Je viens ». Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur, et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Poussez des cris de joie ensemble, faites éclater votre allégresse, vous, ruines de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Vous ne sortirez pas en courant à la hâte, vous ne marcherez pas comme des fugitifs, car l'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Alors, je l'ai dit, ce texte, il s'inscrit dans à une époque donnée, pour un peuple donné. Vous avez vu, il y a pas mal d'expressions, on se demande de quoi le prophète s'y parle, en fait. En quoi c'est censé nous concerner? Et ceux peut-être qui sont accoutumés à lire la Bible le savent, mais pour qu'on suive ensemble la même démarche. Quand on lit la Bible, notamment l'Ancien Testament, et on peut faire une lecture littérale des choses, une lecture historique. Le prophète s'adresse effectivement à un peuple, dans un contexte donné, à un temps donné. Mais on peut faire une autre lecture, une lecture un peu, je vais appeler, spirituelle. On va voir derrière les réalités qui sont énoncées des principes spirituels qui s'appliquent pour nous aujourd'hui. Et souvent, le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien Testament et explique en disant « Il était écrit cela » ou « On pratiquait cela », mais aujourd'hui, voilà comment ça se décline pour l'Église et pour les croyants en Jésus. Paul parle dans son épître aux Colossiens de l'ombre des choses à venir. Des choses qui se passaient, mais qui préfiguraient, qui annonçaient des choses qui devaient arriver plus tard. Et c'est un peu sous ce prisme-là que je vous propose de lire le texte. Alors, c'est une démarche qui peut être risquée, parce que c'est avec ça qu'on peut arriver à des interprétations mauvaises, mais en se basant sur ce que la Bible dit, on arrive à comprendre les choses. Par exemple, la Jérusalem dont il est parlé, le prophète s'adresse à la ville de Jérusalem. On peut parler de la Jérusalem historique, mais le Nouveau Testament nous encourage, nous éclaire sur cette question en parlant de la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, c'est finalement l'accomplissement final du royaume de Dieu. C'est l'habitation de Dieu parmi les hommes, c'est le lieu où les êtres humains qui seront entrés dans le royaume vivront pleinement en présence de Dieu. Et dans son épître aux Galates, Paul dit que cette nouvelle Jérusalem, pour les croyants, elle est leur mère. J'ai presque envie de dire c'est leur mère patrie, en quelque sorte. Quand on accepte Jésus, quand on est de nouveau, on devient citoyen d'ores et déjà de la nouvelle Jérusalem, du royaume des cieux. Mais, comme vous le savez, comme vous pouvez le constater, nous n'y sommes pas encore. Et en attendant, nous sommes ici-bas, sur la terre. Je crois qu'il y a vraiment un parallèle intéressant à faire entre le peuple qui était le peuple choisi par Dieu, qui a été déporté loin de sa terre, loin de sa nation, et qui attendait avec impatience d'un jour pouvoir y retourner, et c'est ce que le prophète annonce, un jour Jérusalem sera reconstruite, vous pourrez y retourner. De la même manière, nous sommes, déjà pour ceux et celles qui ont fait la démarche de le devenir, citoyens du royaume des cieux, enfants de Dieu, et nous attendons finalement de rentrer à la maison. Alors je vous propose du coup, en partant du texte un petit peu de faire quelques remarques, on ne va pas pouvoir tout développer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais sur ces réalités du royaume de Dieu qui sont cachées, ou en tout cas qui sont mentionnées dans le texte. Par exemple, on peut commencer au verset 2. Il est écrit que désormais, ni l'incirconcis, ni l'impur n'entreront plus chez toi, n'entreront plus dans Jérusalem. Je ne pense pas que beaucoup parmi nous soient circoncis. Je ne vais pas vous demander de lever la main si c'est le cas, mais juste peut-être pour rappel pour ceux qui ne sauraient pas forcément exactement situer ce que c'est, la circoncision c'était un symbole d'alliance entre d'un côté Dieu et de l'autre côté un homme qui s'appelait Abraham. Et l'engagement réciproque c'était qu'Abraham s'engageait à marcher devant Dieu, à obéir à Dieu, lui et toute sa descendance. Et de l'autre côté, Dieu allait proposer à la descendance d'Abraham de devenir une nation nombreuse, de lui offrir un pays, un peuple, un territoire où il pourrait habiter, et d'avoir une relation privilégiée avec Dieu, que ce peuple serait mis à part pour Dieu. En fait, la circoncision, c'était le symbole de l'appartenance au royaume et au peuple de Dieu. Et du coup, c'est un sujet, alors les Juifs ont continué de pratiquer ça pendant des siècles, et puis est arrivé Jésus est mort, ressuscité, remonté au ciel, et il est resté l'Église. Et au moment du début de l'Église, il y a eu beaucoup de débats sur cette question, est-ce que les croyants en Jésus non-juifs, non-circoncis, devaient se faire circoncire, puisque jusque-là, c'était comme ça qu'on savait qu'on appartenait ou non au peuple de Dieu, il fallait être circoncis. Et alors après plusieurs débats entre les apôtres et les fondateurs de l'Église, ils sont arrivés à cette conclusion. Il y a plusieurs textes qui en parlent, on va lire dans Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Alors on voit encore une fois cette double lecture. Il y avait dans l'Ancien Testament la circoncision physique dans la chair, mais elle était censée simplement préfigurer quelque chose qui se passerait bien plus tard, ce qu'on a appelé la circoncision du cœur. Et un autre terme qu'on utilise dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle marque le début d'une nouvelle vie, justement en tant que membre de la Nouvelle Jérusalem et du Royaume des Cieux. On peut lire aussi dans Galates chapitre 6 au verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, c'est précisé dans la chair, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Jésus, dans l'évangile de Jean chapitre 3, déclare qu'il parle avec Nicodème, qui est un responsable religieux, on va dire l'élite religieuse de l'époque. Il dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La même notion, Ésaïe dit, c'est ni l'incirconcis ni l'impur qui rentre dans la nouvelle, dans Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, c'est si on n'est pas né de nouveau, on ne peut voir et on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors peut-être la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi c'est si important ? Alors je n'ai pas forcément développé, mais la nouvelle naissance, pour faire simple, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous, et vient purifier notre être intérieur, ce que la Bible appelle le cœur, va être complètement purifié et va nous permettre d'être en relation, en connexion avec Dieu. On reste dans un monde déchu, marqué par le péché, on reste dans une chair marquée par le péché, mais notre cœur, lui, est lavé par la présence de l'Esprit de Dieu. Alors je reviens à ma question, pourquoi ? Pourquoi c'est si nécessaire ? Pourquoi Dieu ne pourrait pas juste sauver tout le monde ? On parlait avec Jean-Haut cette semaine de certains courants théologiques qui ont existé, qui existent encore, qui disent bah, finalement à la fin, tout le monde est sauvé, tout le monde rentre dans le royaume, parce qu'il y a, l'amour, la grâce de Dieu qui triomphe. La Bible dit d'ailleurs que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus lui donne une réponse assez claire. Dans une de ses paraboles, je ne vais pas la lire, je vais la paraphraser. Et d'ailleurs Jésus commençait souvent ses paraboles en disant « Le royaume des cieux est semblable à... » Et entre autres choses, le royaume des cieux est semblable à un père qui organisait des noces pour son fils qui se mariait. Alors il appelle une première liste d'invités, qui ne se donne même pas la peine de venir, qui décline l'invitation. Le père se met en colère, alors il relance une deuxième vague d'invitations. Et là, il y a plusieurs personnes qui viennent célébrer la fête, qui étaient certainement préparées depuis bien longtemps. Et parmi les invités, il y a quelqu'un qui n'a pas la tenue adéquate, qui est, on parle de la robe des mariés, il y avait certainement une tenue particulière pour aller à un mariage, et cette personne-là ne l'avait pas. Alors là, le texte, il semble un peu dur, le père, il va le trouver, il dit « Mais mon ami, pourquoi tu t'es pas habillé convenablement pour le mariage ?» Et il appelle ses serviteurs, et la personne est jetée dehors. Et là, Jésus, il est assez dur, il dit « C'est l'endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Alors je me suis dit « Mais c'est dur quand même. » Mais la réalité, si on revient à ce qu'on disait avant, c'est que le fait que cet homme ne se soit pas préparé, il gâchait la fête. La fête parfaite qui était préparée depuis certainement des mois, le fait que celui-ci ne se soit pas convenablement habillé, venait tout gâcher. Et de la même manière, si le royaume de Dieu est un royaume parfait, un royaume de justice, un royaume de grâce, d'amour, si nous voulions entrer avec nos cœurs encore marqués par la trace du péché, la trace de la convoitise, de l'égoïsme, on risquerait de tout gâcher. Et le royaume parfait de Dieu ne serait plus un royaume parfait. D'où cette nécessité de naître de nouveau et de laisser Dieu nous transformer. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est que cette nouvelle naissance, elle est possible. Elle est possible en mettant notre confiance en Jésus, total, en le reconnaissant comme notre Seigneur, notre Roi et notre Sauveur. Et ça, c'est un choix que Dieu nous laisse libre de faire ou non, mais qui est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Je vais continuer dans le texte d'Ésaïe. On va faire un peu des allers-retours, on va y revenir, puis on va développer. Au verset 4, le texte va faire référence à un événement qui est bien connu dans la Bible, même dans la culture populaire. Il va faire référence à l'Exode, et en disant que le peuple de Dieu, Dieu dit que mon peuple est descendu tout d'abord en Égypte. Alors ça fait référence à cette histoire avec les descendants d'Abraham, justement, qui vont aller séjourner en Égypte. demeurer esclave et finalement être libéré par Dieu qui va susciter un libérateur, Moïse, et par des grands prodiges que Dieu va accomplir. Et là encore, au premier abord, on pourrait dire en quoi ça nous concerne. Je pense que personne ici n'a été esclave, peut-être certains sont allés en Égypte, mais ça fait pas de nous, ça nous semble tellement loin. Et pourtant, quand on creuse, c'est vraiment une histoire qui nous concerne tous pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que nous sommes tous, par nature, esclaves du péché. Jésus déclare en Jean, chapitre 8, verset 34, « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et c'est l'interprétation, je dirais, la plus commune, c'est de dire que cet esclavage que les Israélites vivaient en Égypte, nous la vivons aussi, d'une certaine manière, en tant qu'esclaves de nos pulsions, esclaves de notre égoïsme, esclaves de notre incapacité à vivre ensemble à cause de nos cœurs marqués par le mal. Une autre interprétation que j'ai trouvée, une autre vision des choses que j'ai trouvée, que je trouve intéressante, c'est le théologien Jacques Ellul qui la partage. Et je vais le citer. Il développe en disant que l'Égypte, en hébreu, dans la langue originale de la Bible, se dit Mitzrayim. Et Mitzrayim, ça se traduit littéralement par la double angoisse. Et les rabbins expliquent ça, la double angoisse, par l'angoisse de vivre et l'angoisse de mourir. Et il dit, le Dieu de la Bible est par-dessous tout celui qui nous libère de tout esclavage, de l'angoisse de vivre et de celle de mourir. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser vraiment à notre monde, nos sociétés. D'une part, angoissé par la mort, angoissé par le fait de se dire qu'on amasse, qu'on travaille ici-bas, mais qu'on n'emportera rien avec nous. Vous avez peut-être suivi, il y a des gens milliardaires qui investissent là dans des programmes pour atteindre l'immortalité, comment on pourrait faire pour vivre éternellement. Et puis il y a tout simplement toutes les questions existentielles que chacun peut se poser. Il y a les angoisses, aussi l'angoisse de vivre dans un monde marqué par la guerre, marqué par les crises économiques, écologiques, politiques, marqué par l'angoisse aussi de devoir vivre dans un monde où on doit prendre des décisions, faire des choix, je pense aux jeunes peut-être qui doivent prendre des décisions pour leur avenir, ça peut être angoissant. J'ai un petit souci dans mes notes. Et donc oui, nous sommes tous, comme le peuple était esclave, nous pouvons être esclaves de notre péché, esclaves de nos angoisses, et c'est là qu'intervient la bonne nouvelle du royaume des cieux. On peut lire au verset 7 dans le Ésaïe 52, « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. » Et cette bonne nouvelle, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle d'une qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut et qui dit à Sion que ton Dieu règne. Déjà, en Saint Testament, la bonne nouvelle, c'est que Dieu règne. C'est le royaume de Dieu, c'est qu'il existe, le royaume de Dieu où nous sommes appelés à entrer. Et ce royaume est un royaume de paix. Et paix en hébreu, je ne sais pas si certains savent comment ça se... Quel mot est utilisé quand on dit paix ? Shalom, très bien. C'est comme ça qu'on se salue d'ailleurs en hébreu, hein. On dit shalom, quand c'est le Shabbat, on dit Shabbat shalom. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on parlait de Jérusalem au début du message. Jérusalem, littéralement, en hébreu, c'est Yerushalayim, et c'est la ville du shalom. Le royaume de Dieu, c'est le royaume du shalom. Et du coup, j'ai essayé de développer un peu c'est quoi cette notion du shalom, et je suis tombé en bas sur cet excellent livre, Shalom, le projet de Dieu, de Bernard Hoth, où il développe trois notions, trois aspects de ce que c'est le shalom. Alors, il y a effectivement ce qu'on traduit par la paix, l'absence de conflit, l'absence de soucis, pardon, l'absence de troubles intérieurs, on est plutôt sur quelque chose en relation à soi-même. Mais le shalom, c'est aussi une absence de dette. Quand on dit shalom à quelqu'un, c'est une façon de lui dire, entre toi et moi, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dette, je ne te dois rien, tu ne me dois rien, c'est le shalom. Et en particulier, le shalom, c'est aussi dans ce cadre-là, la relation rétablie avec Dieu, la fin de la réconciliation avec Dieu. Il y a ces trois dimensions-là, juste dans la notion de shalom. Et c'est là qu'on va pouvoir faire le lien entre ce que j'ai dit avant et ce que je viens de dire maintenant. Parce que le royaume de Dieu qui arrive, c'est un royaume de shalom, et c'est donc la réponse à nos angoisses, parce qu'il va nous donner la paix. La paix face à l'angoisse de la mort, parce que la promesse, c'est d'avoir la vie éternelle dans le royaume de Dieu, de savoir que même si notre vie ici-bas s'arrête, elle va se prolonger pour l'éternité dans un cadre qui sera bien meilleur. C'est aussi la paix face à l'angoisse de vivre. La paix parce qu'on se rappelle que si nous sommes appelés à vivre et à nous investir dans notre vie ici-bas, notre vraie nation, notre vraie patrie, elle est céleste. Et que tout ce qui peut arriver ici-bas, c'est rien, comparé à ce qui va venir après. La bonne nouvelle aussi, c'est que si le shalom, c'est l'absence de dette, la dette que nous accumulons envers Dieu à cause de nos péchés, elle peut être effacée par l'œuvre de Jésus, par sa mort, par sa résurrection. On peut entrer à nouveau dans une absence de dette envers Dieu, dans le shalom entre nous et Dieu, et c'est ça aussi le royaume. Ensuite, cette question du shalom entre nous et Dieu, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet, dès aujourd'hui, et d'autant plus dans l'éternité, de redévelopper une relation avec lui, et dans une relation, ce qu'on va développer, c'est une connaissance. Alors Dieu nous connaît, ça c'est certain, mais nous sommes appelés à le connaître aussi. Et dans Ésaïe, je reviens au texte, verset 6, Dieu déclare que c'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Il saura en ce jour-là que c'est moi qui ai dit, je viens. Et dans une autre version, le texte dit, mon peuple va connaître mon nom. Et dans la Bible, le nom, c'est pas simplement savoir comment quelqu'un s'appelle. Le nom, c'est directement rapporté à l'identité profonde de quelqu'un. On voit des fois, Dieu change le prénom, le nom de certaines personnes, parce que leur destinée de vie est en train de changer. Quand Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël. Et quand Dieu dit, mon peuple va connaître mon nom, c'est que mon peuple, désormais, va me connaître intimement et personnellement. D'ailleurs, Jean dit dans son évangile, la vie éternelle, c'est Jésus qui parle, la vie éternelle, c'est une façon d'appeler le royaume de Dieu, c'est qu'il te connaisse, c'est que nous le connaissions, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et je ne sais pas vous, mais moi, à cette idée, je me réjouis. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments, alors des fois, c'est des moments forts, des fois, des moments progressifs, où on réalise qu'on a appris quelque chose sur Dieu. On réalise que je pensais des choses, j'avais des préconçus sur Dieu, et maintenant, j'ai compris autre chose. Le temps qui me reste. Je voudrais vous raconter une petite anecdote sur un moment fort que j'ai vécu comme ça et de me dire que c'est certainement ça qui nous attend pour toujours, ça me réjouit. C'était il y a quelques années de ça, j'étais encore étudiant et je passais par une période au niveau de ma vie spirituelle, ce qu'on appellerait un désert, un moment compliqué où ma vie chrétienne se résumait à des choses à faire, des choses à ne pas faire et il n'y avait pas vraiment de vie là-dedans. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose et Ça m'épuisait tellement que les étudiants, c'est pas bien de faire ça. Il y a un matin où je me suis dit, je vais pas aller en cours, je vais juste rester chez moi, essayer de régler ce problème, ce manque de vie que j'ai dans ma relation avec Dieu. Et je me suis, ce matin, juste mis à genoux au bord de mon lit, j'avais même plus forcément la force de prier, j'avais pas de mots. Je me suis dit, Seigneur, je reste là. Et ce matin-là, ce qui s'est passé, c'est que sans que je puisse l'expliquer, au fond de mon cœur, j'ai commencé à sentir un amour que je n'avais jamais ressenti avant. Pourtant, je connaissais Dieu, j'étais déjà né de nouveau, mais il y avait une nouvelle dimension de l'amour de Dieu que je comprenais. Et ce matin-là, c'était vraiment l'amour du Père que je ressentais peut-être vraiment pour la première fois, qui me disait, mais Guillaume, tout ce que je te demande, tout ce que tu dois faire ou pas faire, etc., ce n'est pas question de ça, c'est une question que je t'aime et que je veux le meilleur pour toi. Et j'en parle aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et je me dis que cette révélation du cœur du Père, c'est une facette de Dieu, c'est comme un diamant, c'est une unité, mais il y a plusieurs facettes qu'on est appelé à découvrir. Et je crois que le royaume de Dieu, c'est cet endroit de la connaissance de Dieu. Cet endroit où on va vraiment pouvoir connaître Dieu et découvrir, être émerveillé par son amour, émerveillé par sa grâce, émerveillé par sa justice, émerveillé par sa patience. Et ça, ce sera pour l'éternité. Là. Un peu perdu dans mes notes. J'ai encore un point. Je pense que j'ai le temps d'aller au bout. Le texte termine quasiment avec cette question de Pardon. Je vais m'y retrouver. Voilà. Il y a ce texte, ce verset où le prophète déclare « Partez, partez, sortez de là. » Ne touchez rien d'impur. Sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Alors pour rappel, hein, le prophète s'adresse à un peuple qui est déporté un peuple qui est censé être le peuple de Dieu, mis à part, et qui se retrouve dans une terre païenne. En Babylone, ce n'étaient pas des bons juifs ou des bons chrétiens, hein, c'était des gens qui avaient des rites païens, des idoles nombreuses, et c'était difficile pour le peuple de demeurer là-dedans. Comme j'ai dit au début, je pense qu'on peut vraiment faire un parallèle entre ce qu'ils vivaient et ce que nous pouvons vivre ici. Et ce texte-là que je viens de citer, il est cité dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, dans son deuxième aux Corinthiens. Je vais vous le lire. Paul déclare sur la séparation d'avec le mal. « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » On arrive à notre texte. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, et alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Quand on entend ça, au premier abord, on pourrait se dire, Paul, il nous appelle juste à vivre entre bons chrétiens, à vivre comme des moines, à séparer du monde. Mais quand on lit l'ensemble du Nouveau Testament, l'ensemble de l'œuvre de Paul, on comprend que ce n'est pas ça l'idée de Paul. L'idée, et je pense qu'elle est très bien résumée dans la prière de Jésus à son Père nous concernant, c'est « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. » La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on vive juste dans un cocon de pureté, je pense que même si c'était nous au milieu, je pense qu'il ne resterait pas pur très longtemps. Mais la réalité, c'est de dire, au milieu d'un monde qui n'est pas selon les principes du royaume de Dieu, qui n'est pas vraiment encore le royaume parfait et accompli de Dieu, nous sommes appelés à vivre différemment, à vivre conformément aux principes du royaume, d'ores et déjà dans la pureté comme l'a développé Paul, mais à vivre aussi dans le monde et à apporter cette dimension du royaume déjà dans notre monde. Je vais conclure en rappelant les différents points. Alors déjà, j'espère que ça nous aura effectivement, ce message nous aura rappelé notre espérance, qu'est-ce que c'est qui nous attend et pourquoi c'est bon de se préparer à rentrer dans le royaume des cieux. Donc Dieu nous invite à rejoindre son royaume, c'est ça la bonne nouvelle. C'est possible en recevant son esprit, en vivant l'expérience de la nouvelle naissance. C'est d'ores et déjà l'assurance ici-bas de vivre dans le shalom de Dieu. Le shalom libéré du péché, libéré de nos angoisses et réconcilié dans notre relation avec Dieu. Et c'est déjà vivre dans la pureté en attendant l'établissement parfait du royaume. Il y a un autre endroit où le texte d'Ésaïe il est cité dans le Nouveau Testament, c'est dans Romains chapitre 10. Et il est dit, c'est Paul qui parle, il dit, en parlant des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer la bonne nouvelle? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et j'aimerais en quelque sorte nous envoyer maintenant, dans nos semaines, dans notre quotidien, au travail, à l'école, partout où nous allons, qu'on puisse être ces messagers de la bonne nouvelle, pas forcément des gens qui insistent tout le temps avec ça, mais qui saisissent simplement les occasions, quand on peut le faire, partager notre espérance et de pas juste le dire comme quelque chose qu'on connaît par cœur, mais quelque chose qu'on croit profondément et qu'on veut simplement transmettre autour de nous. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour cette bonne nouvelle que tu es venu nous annoncer. Merci parce que c'était ton plan depuis le début de vivre, de constituer un peuple et constituer un royaume duquel nous pourrions faire partie, dans lequel on pourrait vivre heureux, dans la paix, dans la joie, dans la justice et surtout dans une relation avec toi. Je te prie que tu nous aides, peut-être parmi nous, si on a encore des angoisses, si on lutte encore avec certains péchés, que tu puisses nous aider à en être pleinement libre, libre de ces esclavages. Je te prie que tu nous aides à vivre dans la pureté dès aujourd'hui. Et je te prie que tu nous donnes vraiment chaque jour de réaliser un peu plus qui tu es et combien c'est un privilège de pouvoir vivre avec toi pour l'éternité. Je te prie que ce privilège-là, on puisse le partager à d'autres autour de nous. Donne-nous de le faire avec conviction, de le faire avec amour et que ça puisse vraiment, que cette espérance que nous portons, nous puissions vraiment la vivre au quotidien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.